Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission qui vous aide à faire vos choix si vous hésitez entre plusieurs films pour vous rendre donc dans les salles de cinéma. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Alors pour toi aujourd'hui, ce sont deux films de genre?
Oui, ce sont deux films d'horreur, X et Piggy. Piggy est un film mexicain de Carlota Martinez Pereda et X est le nouveau film de Ty West, un petit maître du genre dont c'est le premier film distribué en salle.
Avec Guillaume, nous verrons eh bien, s'il est bon de regarder sur la plateforme Netflix à l'ouest rien de nouveau et ce sera l'occasion de jouer à un blind test Première Guerre mondiale. Ce n'est pas la première fois que nous jouons à un blind test sur le premier conflit mondial, mais cette fois-ci, c'est avec de nouveaux films. 5 extraits à découvrir. Quant à Marine, elle nous parlera de Bros, une comédie gay sortie il y a quelque temps déjà, mais on reviendra dessus. Mais nous commençons avec Sarah, qui est harcelée par les autres jeunes filles du village jusqu'à ce qu'un mystérieux étranger s'en prenne à ses bourreaux. C'est Piggy.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Pauvre Sarah, non seulement elle est obèse, mais en plus l'été sous un soleil écrasant est là comme un rappel cyclique de son surpoids. Surtout, il faut affronter le regard des autres, rarement empathique quand on a 17 ans. Elle est quotidiennement victime de harcèlement par un entourage particulièrement chargé en matière de méchanceté. Alors jusqu'au jour où débarque un mystérieux inconnu qui décide de s'en prendre aux harceleuses. Tout s'arrête comme par miracle. Sarah en sait plus que prévu et un dilemme se pose pour elle. Parler et sauver ces jeunes filles insupportables ou au contraire, laisser le cours des choses s'en occuper et donc protéger cet étranger qui l'a sauvée.
¿Dónde está Claudia? ¿Tú sabes algo de ella? Sara, has oído algo.
Extension d'un court-métrage tourné en 2018, Piggy ne tient certes pas toutes ses promesses, mais demeure en l'état un thriller suffocant matiné de teen movie dénonçant avec violence le harcèlement au quotidien. Sorte de slasher social, virant parfois au gore, le film aborde la grossophobie par une mise en scène sans fioritures, sèche et frontale. Tourné en 1.33, le film affiche des choix visuels insolites, comme de privilégier les couleurs chaudes et vives et les cadres en plan fixe, refusant tout effet tape à l'œil au risque de paraître austère. Cette austérité plutôt séduisante est malheureusement dénaturée par un manque de rigueur dans l'écriture. On sent la réalisatrice à la peine pour faire durer le film 1h40, multipliant les péripéties inutiles comme cette traque dans les bois sans grand intérêt et surtout pas flippante pour un sou. La lenteur du récit finit par agacer, d'autant que le film est très bavard. Une demi-heure de moins aurait insufflé davantage de souffle à ce film inégal mais méritant. Le scénario se délite assez rapidement, laissant des pistes inexplorées comme une romance possible entre Sarah et le psychopathe, et les personnages sont traités à gros traits comme dans une farce. Sauf que ça n'en est pas une. Malgré ses nombreux défauts, le film ne démérite pas, portrait dérangeant d'une société qui a encore du chemin à faire pour accepter l'autre. Il faut surtout souligner la composition exceptionnelle de l'actrice principale, d'autant qu'elle elle expose son corps à plusieurs reprises sans jamais chercher à maîtriser son image. Laura Galan, que l'on espère revoir très bientôt, ne triche pas et se révèle émouvante et constamment juste. La grossophobie à travers le cinéma de genre produit une forme d'étrangeté, un décalage ironique aussi en nous mettant à distance, permettant au film d'éviter l'écueil de la dénonciation facile. Imparfait et parfois agaçant, Piggy reste néanmoins un film d'horreur plutôt original, aux propos pertinents et bien vénères dans sa dernière demi-heure, peu avare en effet crade, porté par un climat bien malsain.
Piggy est en salle depuis le 2 novembre. L'histoire poignante d'un jeune soldat allemand sur le front occidental en première ligne pendant la Première Guerre mondiale, c'est à l'ouest rien de nouveau et c'est diffusé sur Netflix.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Hein.
À l'Ouest, rien de nouveau, c'est un peu le A Star Is Born de l'Allemagne. Bon, j'exagère à peine, puisque la première version, la plus célèbre, celle de 1930 de Lewis Milestone, est américaine, mais il n'empêche, le récit de Heinrich Maria Remarque, datant de 1929, donc mettant en scène un jeune soldat allemand volontaire sur le front Ouest et découvrant que la réalité du terrain n'a rien à voir avec la réalité, a été adapté plusieurs fois depuis maintenant presque un siècle, prouvant que le fond de l'histoire n'est donc pas uniquement un récit sur les horreurs de la Première Guerre mondiale, mais un récit plus grand que cela sur ce qui fait une guerre, ce qu'implique une guerre et qui combat véritablement une guerre. Le paradoxe terrible qui s'impose aux spectateurs de 2022 est de devoir voir un spectacle aussi immersif et puissant qu'à l'Ouest, rien de nouveau, sur petit écran via une plateforme, comme si l'histoire à notre époque tout aussi trouble devenait de plus en plus petite. Avouons-le, passé le confort des belles images et donc l'effet album de vignettes Panini, on commence à ressentir un certain ennui à cause du rythme pas forcément optimal. Et c'est bien dommage car il y avait là bien sûr une belle occasion de plonger le spectateur dans la réalité de la guerre et dans la lente descente aux enfers de ses personnages. Le choix de l'usage récurrent de trois notes de musique électronique couplées à des plans très léchés et symétriques dérange franchement, car il transforme une tragédie humaine d'ampleur gigantesque en clip qui montre que la guerre est quelque chose de beau, d'attirant, voire même de sexy, même dans ses plans les plus sanglants. Alors rappelons que les plans de tuerie, toujours extrêmement impressionnants du film de Lewis Milestone, évitaient cette esthétique quasi érotique de la mort. Et l'on comprend qu'on est plus dans l'inspiration puisée du côté du fils Bondarchuk, bien moins doué que son père, et surtout bien plus bas du front. Alors c'est bien évidemment le dilemme de ce genre de film, de devoir montrer de façon assez spectaculaire des choses qui sont censées être horribles, les rendant par la force des choses attractives. Probablement, pour séduire les plus jeunes, on est clairement dans une vision de la guerre telle qu'elle est mise en scène dans 1917 de Sam Mendes ou Dunkerque de Christopher Nolan. Alors au jeu de vouloir concurrencer les Américains, ou du moins les Anglais faisant des films de guerre aux États-Unis, il aurait été préférable cette fois-ci d'y insérer un peu plus de fond en plus de la forme. En résulte des moments de réflexion qui s'éternisent, faute de contenu. Mais le plus gênant dans cette nouvelle version de All West, rien de nouveau, en plus d'incohérences historiques hallucinantes dans un combat pile le 11 novembre, est de contredire le message inaugural du roman. Alors ici, il n'y a pas qu'une réflexion sur la monstruosité humaine qui donne naissance à des guerres qui broient les hommes, mais un espèce d'entre-deux, d'en même temps, très actuel, qui rend flou les raisons du conflit qui défigurera le monde pendant 4 années. J'en veux pour preuve l'hallucinante scène de demande d'armistice qui fait passer le maréchal Foch et tous les dirigeants français pour des bouchers. Alors ne voulant pas capituler face à l'oppresseur et inversant le rapport de force en même temps que le cours de la guerre est en train de changer, les Français deviennent donc par la force d'un scénario douteux et d'une mise en scène manipulative les responsables du massacre qui va s'en suivre quelques minutes plus tard. Alors déjà qu'on n'osait plus nous montrer des Allemands et encore moins des nazis dans Dunkerque, où Christopher Nolan faisait grand soin d'invisibiliser les méchants en plus de réécrire l'histoire ou en oubliant le sacrifice de milliers de Français pour que les Anglais puissent fuir le conflit, on se demande jusqu'où iront les films de guerre de demain tant on continuera ce révisionnisme assez puant. Alors peut-être que nous vivrons un jour réellement dans un futur comme celui dépeint par Mike Judge dans Idiocratie, où les musées enseigneront que Charlie Chaplin est un dictateur allemand qui a plongé le monde à la Seconde Guerre mondiale. Bon, on se doute que si ici c'est plus par idiotie justement que ce genre de propos est tenu, même si un film historique n'est pas tenu de coller à la réalité exacte des choses, n'étant pas un livre d'histoire mais une œuvre d'art, il n'en est quand même pas moins dérangeant de mordre plus d'une fois la ligne de la décence mémorielle sous couvert de grands spectacles. À l'heure où l'on constate que l'Europe est de moins en moins unie et que divers conflits inquiètent de plus en plus les gens, cette nouvelle version d'All West, rien de nouveau, essaie de rappeler maladroitement à la génération YouTube et TikTok que nos civilisations, aussi modernes et avancées soient-elles, sont mortelles. Mais il n'est pas sûr que le message s'imprime à cause de sa diffusion dans le confort de nos domiciles où il est si facile de le zapper. On ne peut que conseiller de replonger par la même occasion dans la version de 1930, celle-ci intemporelle, et de la coupler avec la version de 1919 de J'accuse d'Abel Gance, peut-être le film définitif, lui, sur la tragédie de la Première Guerre mondiale.
Ce film, à l'Ouest, rien de nouveau, nous donne l'occasion de jouer un blind test avec des films qui se déroulent alors soit durant la Première Guerre mondiale ou qui sont très liés à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qui peuvent se dérouler quelques années après, mais en tout cas, il y a un lien qui peut être fait avec le premier conflit. Donc, 5 extraits à faire écouter.
Tu sais que sa fiancée est coiffeuse, hein ? Et il se plaignait du manque d'installations sanitaires quand il lui écrivait. Tu te rappelles les goguenots infects à Arras ?
Ouais.
Bref, elle lui envoie de l'huile pour cheveux. Ça a une bonne odeur sucrée. C'est comme du miel. Wilco adore ce parfum. Mais il veut pas trimballer ça dans son paquetage. Alors, il s'en tartine une bonne couche partout sur l'étif. Il s'endort. Et au milieu de la nuit, il se réveille. Il y a un gros rat qui est installé sur son épaule et qui lèche l'huile sur sa tête. Wilco est pris de panique, il se lève d'un bond. À ce moment-là, le rat lui arrache d'un coup de dent sa putain d'oreille et il se débine avec.
C'est trouvé.
Et c'est donc 1917 de Sam Mendes.
Oui, c'est lui. Un film de 2019 que je suis sans doute un des rares dans cette émission à avoir apprécié. Scénario inspiré en partie par un récit raconté à Mendes par son grand-père paternel, donnant l'illusion d'un seul long plan séquence et d'une action en temps réel. Le film est en scène deux jeunes soldats britanniques qui reçoivent l'ordre de délivrer un message annulant une attaque vouée à l'échec et ils doivent pour cela traverser les lignes ennemies. 3 Oscars, celui de la meilleure photographie, le meilleur mixage de son qui existe aux États-Unis et meilleurs effets visuels, là aussi qui existe seulement aux États-Unis. 2,2 millions d'entrées pour ce film, donc un des derniers, je dirais, qui prend eh bien, pour sujet la Première Guerre mondiale. Deuxième extrait de ce blind test.
On se croirait encore en guerre.
C'est que vous ne l'avez vu que d'assez loin. La guerre est pire. Tellement pire. Des centaines d'hectares avec des centaines de cadavres qui noircissent, plus un arbre. Des trous pleins d'eau d'où sort un pied, une tête couverte de mouches. Ça pue. Des rats courent par bandes. Mais nous n'arrêtons pas de nous taire! Qui nous écouterait d'ailleurs? Qui nous imprimerait? Les journaux n'en ont que pour le mensonge et le crétinisme galonné. La guerre, avec ses allures dévastatrices, n'a que l'apparence de la destruction. Je l'ai lu, ça! Signé cher fils général! 1 500 000 morts n'ont que l'apparence de la mort! Salaud!
C'est trouvé, Manu.
Et c'est La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier.
Oui, film sorti en 1989 avec, on l'entend, Philippe Noiret et Sabine Azéma. Nous sommes en 1920, donc la guerre est terminée, mais on n'en a pas fini avec le premier conflit mondial. Deux jeunes femmes d'origine sociale très différente poursuivent le même but, retrouver l'homme qu'elles aiment et qui a disparu durant les combats. Et leur enquête les conduit à la même source d'information, le commandant de la plane. César du meilleur acteur et de la meilleure musique en 1990 et 1,5 million d'entrées en France. Troisième extrait de ce blind test consacré à des films qui traitent de la Première Guerre mondiale.
Mon seul propos était de vous rappeler l'héroïsme dont ces hommes ont fait preuve en toute occasion dans le passé.
Nous ne nous occupons pas du passé, nous nous occupons du présent.
Mais mon général, ce ne sont pas des lâches. Donc si certains n'ont pas quitté les tranchées, c'est sans doute parce que c'était impossible.
Ils avaient l'ordre d'attaquer. Leur devoir était d'obéir à cet ordre. Nous ne pouvons laisser les hommes décider si un ordre peut être exécuté. S'il ne pouvait pas l'être, la seule preuve convaincante eût été leurs cadavres jonchant le sol des tranchées. Ce sont des pleutres. Tout ce foutu régiment est un ramassis de voyous, de larves et de tirs au cul.
Vous en êtes convaincu, mon général ?
Je le suis. C'est exactement ma conviction. Et qui plus est, c'est un fait incontestable.
Alors c'est trouvé, Manu.
C'est donc « Les Sentiers de la Gloire » de Stanley Kubrick.
Oui, film de 1957 avec Kirk Douglas. En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le général français Broulard ordonne au général Miro de lancer une offensive suicidaire contre une position allemande imprenable, surnommée la fourmilière. Et au moment de l'attaque, eh bien, les soldats tombent par dizaines et leurs compagnons épuisés refusent d'avancer. Alors, ce film est tiré de faits. Hein. Pendant la Première Guerre mondiale, environ 2500 soldats français ont été condamnés à mort par les conseils de guerre, dont un peu plus de 600 furent réellement fusillés pour l'exemple par l'armée pour des motifs divers. Il pouvait y avoir l'abandon de poste, les mutilations volontaires ou le refus d'obéissance. Voilà, donc ce film est tiré de ces faits-là. Il n'a pas eu de visa d'exploitation en France à sa sortie, tout simplement parce que, alors je crois que c'était la United Artists qui n'a pas demandé ce visa d'exploitation, puisque lorsqu'il a été projeté dans les avant-premières, il a créé une polémique. Les autorités françaises ont fait pression pour que le film soit censuré dans toute l'Europe. Et du coup, le film ne sortira en France que 18 ans plus tard, en 1975. Voilà pour Les Sentiers de la Gloire. 523 000 entrées en France pour ce film remarquable de Stanley Kubrick. Quatrième extrait de ce blind test consacré donc aux films qui ont pour sujet la Première Guerre mondiale.
C'est le vieux qui a combiné le dispositif.
Hein ?
Ça se voit.
On défend la route par là, c'est inaccessible. Défense naturelle.
Ah ouais ?
Trop de profondeur, ça.
Le zigoto qui a décidé ça, il a dû faire trois pas dans la bouillasse. Regardez, mon général, ça descend. J'ai fait à peine 2 mètres et j'en ai jusqu'au mollet. Quelle bande de... Tu vois, moi, je viendrais de par là. Planquer le temps qu'il faut, sur des radeaux, des barcasses. Et d'un seul coup, flash ! Alors vos mitrailleuses fixes, elles iront bigorner les grenouilles.
Il a raison, hein.
Alors ? Alors ? Là, tu te mets là et tu te couvres. Seulement, abandon de poste. Tarif ?
3 ans de forteresse.
Faites ce que vous voulez, les gars. Un conseil, les mitrailleuses, pas trop fixes.
Alors, ce n'est pas trouvé pour toi, Manu. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé, chers auditeurs. On entend Philippe Torreton.
Philippe Torreton, capitaine Conan ?
Oui.
Ah, oui. J'ai pensé à celui-là, mais je me suis dit qu'il n'y aurait pas 2 taverniers, en fait. Oui, voilà. Mais si. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit, non, c'est pas...
Il ne va pas le faire.
Il ne va pas le faire.
Eh bien, si, parce que déjà, j'apprécie Tavernier. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire, étant donné qu'il n'y a pas non plus énormément de films donc traitant de la Première Guerre mondiale. Donc, ce Capitaine Conan est un film de 1996. Son action se déroule pendant et immédiatement après la Première Guerre mondiale sur le front des Balkans, car si l'armistice a été signé en France, eh bien, seule l'armée d'Orient n'est pas démobilisée et reste en état de guerre. À noter qu'il a reçu 2 Césars. Là, j'ai fait que des films primés. Meilleur réalisateur pour Bertrand Tavernier, puis meilleur acteur pour Philippe Torreton, qui effectivement eh bien, se lance dans un sacré exercice. Là, on l'a un peu entendu. 581 000 entrées en France seulement pour ce film. Dernier extrait de ce blind test.
Beaucoup de types sont jamais rentrés chez eux après la guerre. On pensait qu'ils étaient morts, non. Simplement, ils s'étaient fait tuer aux archives. Eh bien, Edouard, il voulait que je le tue aux archives. Dans le cahier novembre 18, j'étais sûr de trouver des noms là où les familles n'étaient pas encore informées. Des morts récents, des morts tout neufs en quelque sorte. Il fallait juste que je trouve quelqu'un que personne ne réclamerait. Et puis j'ai trouvé un type de l'assistance publique, Eugène Larivière, impeccable. Les gars de l'assistance, déjà quand ils sont vivants, on s'occupe pas beaucoup d'eux, mais morts. Alors ce jour-là, Édouard Péricourt, il est mort le 9 novembre 18 à la côte 113. Et puis Eugène Larivière, ben, il allait mieux.
Eh bien, trouvé.
Et c'est Au revoir là-haut d'Albert Dupontel.
Oui, film sorti en 2017, adapté du roman du même nom de Pierre Lemaitre, prix Goncourt en 2013. Là, il y avait plusieurs indices. Bon, bah, il y avait la voix déjà d'Albert Dupontel hein, qui joue dedans, et puis il y avait aussi les indices sur l'identité qu'il prend. Novembre 1919, 2 rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque au monument aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. Ce film a excellemment bien marché puisqu'il a réuni 2 millions de spectateurs en France et puis il a fait un sacré carton quand même au César puisque ça a été la meilleure réalisation, la meilleure photographie, les meilleurs costumes, les meilleurs décors et aussi un César comme ça qu'on a nous, la meilleure adaptation. Voilà. Ainsi s'achève ce blind test donc consacré au film traitant de la Première Guerre mondiale puisque eh bien, on a voulu chroniquer encore un film Netflix qui n'a pas eh bien, forcément été apprécié. À l'Ouest, rien de nouveau donc diffusé sur la plateforme américaine. Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X, et ça se passe mal. Un film interdit aux moins de 16 ans, il y a sans doute un petit côté massacre à la tronçonneuse. C'est X de T. West.
Ben oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
La fille du fermier, prise 1. Il faut que je sois célèbre, Wayne.
Il y a personne d'autre qui est comme toi.
Ça te plairait de venir à l'intérieur?
Je veux faire une scène dans le film.
Est-ce que tu peux juste pointer la caméra et te la fermer ?
Depuis le temps qu'on l'attendait, ce fameux X qui traîne dans les tiroirs après avoir fait le tour des festivals en ayant rencontré un succès mérité. Le film signe le retour de Ti West, sorte d'enfant terrible du cinéma d'horreur contemporain, travaillant essentiellement en indépendant avec des budgets serrés. Il n'avait rien fait depuis 9 ans, soit son western avec Ethan Hawke, In the Valley of Violence. Changer son fusil d'épaule ne lui a pas vraiment porté chance. Il revient donc à l'épouvante pure avec son nouveau film, qui est aussi assurément son meilleur et de loin. Non pas que son travail déméritait jusque-là, loin de là. The Innkeepers et surtout House of the Devil possèdent d'indéniables qualités, la première étant de refuser les effets graphiques au profit d'une ambiance pesante tout entière dévouée au hors-champ. Ti West a tenté jusque-là de créer des atmosphères lourdes de sens, montrant le moins possible. Mais on ne soupçonnait pas le cinéaste explosé à ce point, livrant une réelle bombe, petite révolution au sein d'un genre qui a bien besoin d'être secoué. Non pas que X soit d'une originalité absolue, mais ça faisait longtemps que nous n'avions pas vu un film d'horreur aussi viscéral et brillant, tant d'un point de vue de la forme que du fond. L'histoire est pourtant simple, je dirais même que n'importe quel cinéphile la connaît par cœur depuis Massacre à la tronçonneuse. À une variante près, ça se passe dans le milieu du cinéma porno indépendant en cette année 1979, où le genre n'a jamais été aussi populaire dans les salles américaines. C'est l'âge d'or du X. Alors, dans une ferme isolée du Texas, une équipe de tournage arrive pour tourner un film de cul avec un budget proche de zéro, mais avec certaines ambitions. La très charmante Maxine Minx compte bien sur ce tournage pour devenir célèbre dans le milieu. Elle est entourée de son petit ami producteur, des acteurs Bobby Lyne et Jackson Hall, du réalisateur R.G. Nichols et de sa petite amie Lorraine. Ils tournent sur la propriété de personnes âgées de la région qui ignorent tout de leurs activités. Ces vieux innocents leur réservent une sacrée surprise, un véritable massacre en règle que je divulgue parce que le film commence par la fin à l'arrivée de la police sur les lieux de la tragédie. Mais au fond, peu importe d'être au courant de ce qui s'est passé, on veut juste assister au spectacle pervers et ludique orchestré par un cinéaste en pleine forme multipliant les clins d'œil au cinéma de Toby Hooper sans parasiter le sien.
Vous cherchez un endroit où rester ? Oui, monsieur.
Il est vraiment affreux, le vieux.
Il y a ma femme qui vit juste à côté, alors j'apprécierais un peu de discrétion de votre part.
Il sait pas ce qu'on fait ici, pas vrai?
J'aime mieux avoir à demander pardon que la permission.
Si on se fait prendre par papa, on aura de gros ennuis, t'as pas idée?
Ma femme ne va pas bien. Ça se produit quand la nuit tombe.
Rien à voir avec le récent All People, sur un sujet finalement pas très éloigné. Hein. X est un slasher passionnant et ludique où le bon vieux Boogeyman prend les allures d'une mamie, gardienne du temple de la frustration sexuelle, interdite de profiter des plaisirs charnels alliés au fric qui motive l'équipe de tournage. Ti West évite de verser dans le cynisme malgré son propos ouvertement politique. Les personnages, très critiquables, ne sont pas détestables alors que tout pointe dans ce sens. Au contraire, Maxine, malgré ses idées arrivistes et opportunistes, demeure un personnage très attachant, poupée bizarre du porno interprétée génialement par Mia Goth, actrice qui rivalise en étrangeté avec Anya Taylor-Joy. Dotée d'un sous-texte intelligent, subtilement amené et porté par une bande-son galvanisante, X est une remarquable série B poisseuse, sexy et violente, mise en scène avec une énergie inhabituelle par un cinéaste qui sait prendre le temps quand il faut et accélérer le rythme si le besoin s'en fait ressentir. Un pur plaisir de cinéma à l'ancienne en fin de compte. Alors bonne nouvelle, Ti West a déjà tourné la suite, ou plutôt le préquel, avec toujours l'extraordinaire Mia Goth. On n'a pas fini d'entendre parler d'elle.
Ce film X, qui pour le coup est interdit au moins de 16 ans,
c'est normal, hein.
Oui. est en salle depuis le 2 novembre. Comédie gay dans laquelle deux hommes dont la relation pourrait peut-être se transformer en une grande histoire d'amour, c'est Bross et c'est Marine qui nous en parlent.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Salut à tous, c'est Bobby Lieber, bienvenue dans votre podcast préféré où comme d'hab, je parle de tout ce dont j'ai envie de parler.
Bobby est un homme en colère, ou plus précisément un homme gay en colère, ce qui pourrait passer pour un oxymore. Il est en colère contre les représentations des personnages gays dans les films, en colère contre les représentations de l'homosexualité dans les médias, en colère du peu de connaissances de l'histoire gay et du fait que personne ne s'en soucie, car il travaille dans le musée de l'histoire LGBT de New York. Et comme il est également une célébrité dans le monde du podcast, il déverse toute cette colère dans son émission en racontant les péripéties de sa vie. Le film s'ouvre par exemple sur ce rendez-vous raté qu'il a avec un producteur de cinéma qui voudrait demander à Bobby d'écrire une comédie romantique gay à destination du grand public, en arguant vouloir montrer que les histoires d'amour gay sont les mêmes que celles des personnes hétérosexuelles, ce que Bobby réfute totalement. Et il s'avère que la genèse du film Bros est exactement celle-ci. Le réalisateur Nicholas Stoller, connu pour avoir brillé dans le registre de la comédie tendre et potache américaine produite par Joe D'Apato, on peut citer notamment les films Nos pires voisins ou encore Sans Sarah, rien ne va, Nicholas Stoller a demandé à l'acteur Billy Eichner de l'aider à coécrire la première comédie romantique gay à destination du grand public. C'est ainsi qu'en 2022 arrive sur nos écrans Bros, première comédie romantique autour de deux hommes gays produite par une major. Et comme il était bien évidemment logique de ne pas y faire jouer deux hétéros, c'est aussi le premier film de studio dont les rôles principaux sont interprétés par des acteurs LGBTQIA+. Car jusqu'à présent, même lorsque l'on daignait raconter des histoires d'amour homosexuelles, eh bien les rôles étaient toujours tenus par des acteurs hétéros. Un simple exemple, Brokeback Mountain.
Donc ces gros producteurs sont venus me voir et ils m'ont dit « On veut que vous écriviez une comédie romantique sur un couple homo. » Un film que même un hétéro pourrait aimer et regarder avec sa petite amie.
Les gays, c'est mon kiff.
Génial. Un film que même un hétéro pourrait aimer. Est-ce que je vais me retrouver dans une course-poursuite effrénée, tomber subitement amoureux d'Ice Cube? Est-ce que je vais me faire démonter par Jason Momoa alors qu'un volcan menace de tout détruire? Ils ont dit, on veut juste un film qui montre à tous que les relations entre homos sont les mêmes que celles entre hétéros. L'amour, c'est l'amour. Alors j'ai dit, comment? L'amour, c'est l'amour? Eh ben non, c'est des conneries ça!
Bros arrive à atteindre son but, qui était pourtant assez complexe et assez multiple, puisque le film devait à la fois jouer sur les codes de la comédie romantique, garder le mordant, la patte de Joe D'Apato, qui produit le film, s'adresser à un large public, mais tout en conservant son identité profondément queer. Car Bobby, le personnage principal, va faire la rencontre de Aaron, qui l'attire immédiatement, mais s'avère très différent de lui. En effet, Aaron se moque un peu de l'histoire LGBTQIA+ des États-Unis. Il veut assumer son homosexualité sans faire de vagues, sortir en boîte et rencontrer des hommes pour avoir des aventures et obtenir de jolis muscles grâce à la prise de stéroïdes. Ici, pas de vision idéalisée de la vie romantique homosexuelle. Les dates de notre héros sont répétitives, mécaniques, parfois un peu glauques. Non pas parce que toutes les personnes gays ont une vie amoureuse ratée, mais parce que notre personnage central en particulier arrive mal à gérer ses interactions sociales et sexuelles. Et dans les deux rôles principaux, Billy Eichner donc et Luke McFarlane, plus connu outre-Atlantique que chez nous, notamment car il s'est illustré, vous allez rire, dans de nombreux téléfilms de Noël, bien évidemment totalement hétéro.
Nos amitiés sont différentes.
Je dois aller à une petite sauterie et vous êtes trop vieux pour en être. Vous pouvez partir.
Nos vies sexuelles sont différentes.
Photo de ton cul ?
J'ai pas de photo de mon cul.
Faut que je vois ton cul !
Voilà, rien que pour toi.
Quoi ? Il m'a bloqué ?
Nos relations sont différentes.
C'est la semaine de sensibilisation à la bisexualité et personne n'a l'air de s'en soucier !
Le mois de l'histoire lesbienne, c'était en mars et personne n'en a parlé !
Oh bien sûr, les lesbiennes ont un mois et le monde a juste une semaine !
Je ne veux pas de ces merdes hollywoodiennes. Pas de scène où deux mecs s'apprêtent à baiser et la caméra s'éloigne comme par hasard.
Alors, tous les passages obligés de la comédie sont présents. La première rencontre totalement foireuse, les deux personnages qui tombent amoureux tout en étant très différents. Cette différence qui les oppose, mais qui leur permet également de se faire avancer mutuellement. La partie du film que l'on appelle « play and fun », c'est-à-dire les moments de complicité qui s'enchaînent. Puis la parenthèse enchantée, celle où les héros oublient tout, loin de leur contexte de vie habituel. La trahison, enfin, qui remet toute la relation en question. Et la déclaration d'amour finale. Mais Bros ne singe absolument pas la comédie romantique hétéro. Le film a un sens du comique de situation particulièrement jouissif et audacieux, comme cette scène où les deux héros tentent de coucher avec plusieurs hommes en même temps, donnant lieu à une scène de partouze totalement bancale et donc très drôle. Le film a ses points faibles, bien sûr. 2 heures pour une comédie, c'est vraiment long. Et certaines références pointues ne seront sans doute pas bien saisies par les spectateurs, qu'ils soient hétéro, homo ou bi. Et en même temps, on ne va pas reprocher à une comédie romantique d'être un peu trop bien écrite. Le film ne boude pas son plaisir avec des séquences émouvantes très satisfaisantes, comme la déclaration d'amour finale. Et surtout, il faut également percevoir le film comme une avancée qui pourrait sembler mineure, mais qui est pourtant très importante. Il n'y a qu'à voir les commentaires homophobes des gens effrayés qui n'ont même pas regardé le film et qui se sentent très menacés par son existence pour comprendre que la représentation de la communauté LGBT au cinéma et dans la pop culture de façon générale est très importante, voire primordiale pour faire évoluer les mentalités.
Alors c'était un rattrapage, hein. Bros de Nicolas Stoller est en salle depuis le 20 octobre.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de films et des interviews.
Ben, moi ce sera Repenti.
Excellent film espagnol. Et puis nous parlerons aussi de Couleur de l'incendie, film de Clovis Cornillac avec Léa Drucker. Et nous entendrons eh bien, les deux. Et puis aussi de Riposte féministe. Et cette fois-ci, nous entendrons Simon Depardon et Marie Pérennes. À la semaine prochaine.